Et voilà. Yofi. Donc, Erev Tov, les Koulam. Et on se retrouve pour notre deuxième partie du retour au judaïsme dans notre série qui s'appelle Les prophéties donc se réalisent. Effectivement, alors, la semaine dernière, eh bien, nous avons évoqué la première étape du retour au judaïsme. Et c'est quoi cette première étape? Eh bien, c'est assez paradoxal. Mais la première étape du retour au judaïsme, c'était d'abord l'abandon du judaïsme. Et on a vu. Et à quel point les prophètes ont parlé de ça. Et évidemment, on n'a pas eu vraiment besoin de se forcer pour voir que ça s'était réalisé de nos jours. Alors évidemment, pas vraiment de nos jours, mais dans, on va dire, les 200 dernières années. Dafka de nos jours, eh bien, nous sommes en train de vivre la deuxième étape, à savoir véritablement le retour au judaïsme. Avant de rentrer dans les versets, j'aimerais dire tout simplement que je peux pas dire pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir, mais je me vois moi comme étant eh bien l'une des réalisations de ces prophéties, puisque je suis un retour au judaïsme. Alors pas que j'étais complètement détaché, j'ai toujours vécu dans une famille traditionnaliste, mais traditionnaliste, détaché de la Torah, détaché de la pratique du judaïsme. Et donc, bah, je suis revenu. Je suis revenu et je ne suis pas le seul. Donc voilà, je pense que je m'inscris dans cette réalisation des prophéties. Il est évident que lorsque moi, je suis revenu en Israël et dans la Torah il y a de cela 17 ans, eh bien, est-ce que mes motivations étaient la réalisation de la promesse des prophètes? Eh bien, la réponse est non. Non, je ne savais pas ce qui avait marqué dans les prophètes. Je suis revenu parce que je suis arrivé à ce cheminement, on va dire, de manière intellectuelle et personnelle. Mais ce n'était pas pour réaliser les prophètes. Et donc, eh bien, je réalisais les prophéties encore mieux que si j'en étais conscient. C'est ce qu'a expliqué le Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou, lorsque un prêtre lui a demandé « Mais c'est vraiment dommage que ceux qui sont en train de construire Eretz Israël sont des non-religieux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de réaliser les prophéties de Isaïe. » Et Manitou de lui répondre, mais enfin, au contraire, c'est beaucoup mieux qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils soient en train de réaliser les versets de Isaïe. Car s'ils avaient été religieux et qu'ils avaient fait tout ce qu'ils font, revenir en Israël, reconstruire le pays, parce que c'est une mitzvah de la Torah, eh bien, on aurait pu penser que c'est parce que c'est une mitzvah de la Torah. Et donc, pas forcément pour réaliser la promesse des prophètes. Alors que là, dans la mesure où ils ne savent pas la portée de ce qu'ils font, c'est que c'est véritablement la main de Dieu qui est en train de guider tout ce processus. Et donc, le retour au judaïsme, eh bien, rentre dans la même équation. C'est parti, rentrons dans notre deuxième partie de la réalisation des prophéties, le retour au judaïsme. Alors, je vous mets tout de suite le texte. Voilà. Alors, attention, j'agrandis un petit peu. Vous me dites s'il faut encore? C'est bon comme ça ou encore? Allez, on va dire que c'est bon?
Ouais, c'est bon.
Ouais, c'est bon? Yofi. Je peux faire plus, hein? Vous voulez plus?
C'est bon.
C'est bon. Yofi. Alors, tac. On s'en va mettre au milieu. C'est bien. Donc, voilà, toute la première partie, on l'avait déjà évoquée. Voilà. Yofi. Donc, on l'avait déjà évoqué, et on était donc arrivé à Vanochi Aster Astir Panay Bayomahou. C'était la fin de la première étape de l'abandon de la Torah. Mais on avait commencé à évoquer, eh bien, que la chazara au judaïsme, le retour au judaïsme, eh bien, va se faire par un changement complet du concept bichlal de l'étude de la Torah. La chazara au judaïsme, alors ça a été le grand enseignement du Rav Kook, mais pas que, ça va être de changer complètement de conception. Ce n'est plus une relation à Dieu mi-yir'a, mais au contraire mi-ahava. Nous devons maintenant nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, non pas parce que nous craignons que si jamais on ne fait pas ce qu'il nous demande, eh bien on va brûler dans le four numéro 18, mais au contraire, parce que on a envie d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une réalité qu'on va retrouver dans la société israélienne actuelle. Une société qui est réfractaire à l'autorité, mais qui veut faire les choses. C'est-à-dire, j'avais amené, je pense la semaine dernière, ce chiffre incroyable, qui nous dit que près, attention, de 77% des Israéliens, 76-77% des Israéliens, ne veulent pas que ce soit obligatoire de se marier à la Rabbanout. D'un autre côté, et ça c'est le dernier sondage Gutmann qui date de 2014, ou 2012, je m'en rappelle plus, maintenant, 76-77% des Israéliens ne veulent pas que ce soit obligé de se marier à la Rabbanout. Par contre, près de 87% des Israéliens veulent se marier à la Rabbanout. C'est-à-dire, je veux me marier à la Rabbanout, mais je ne veux pas que ce soit obligé. Je ne veux pas que tu me dises de le faire. Am keshe orefu. Et donc, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et non pas parce que tu m'as ordonné de le faire. Ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara, mais qui est repris et qui en a fait son cheval de bataille, le Rav Kook, lo tshuva mi'ira, elle a tshuva me'ahava. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans la source donc numéro 6, dans le Tehilim que vous connaissez très bien, nous dit David Ameler, mizmor le toda. Mizmor le toda. Iro, ari uzira la Hashem kol haaretz, ivdu et Hashem besimcha. C'est-à-dire qu'il est temps maintenant de passer à une avodat Hashem besimcha. Besimcha, be'ahava, et non plus dans la crainte de la réprimande. De ou ki Hashem, ou a Elohim, ou oseu velo anachno, am vetson marito, bou sharav betoda, chatserota beteila, odulo baruchu shemo, kitov Hashem leolam chazdo, veador vador emunato. Alors très bien, une fois qu'on a dit cela, eh bien, il faut comprendre que ce que nous vivons, et c'est le cas actuellement, on vient de l'évoquer, eh bien, est déjà mentionné, non pas dans les Nevi'im, mais est déjà mentionné dans la Torah. Dans la Torah, on parle déjà de ce retour à Kadosh Baruch Hu, mais qui est dû à un changement des mentalités, un changement de concept. C'est ce que nous dit ici le livre de Devarim dans le chapitre 30. Lorsqu'on nous dit « Ve'evi'acha Hashem Elohecha ala aretz asher yarshu avotecha virishta » donc Dieu va te ramener sur la terre de tes ancêtres et tu vas la conquérir « Ve'etivecha ve'irbecha me'avotecha » et tu auras encore plus de bienfaits que tes pères. Et là on nous dit « Umal Hashem Elohecha et levavecha » et Dieu va circoncire ton cœur « Ve'et levav zarecha » et celui de ta descendance « Le'ahava et Hashem Elohecha » בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ונתן השם אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר הדפוך. ואתה תשוב ושמעת בכל השם ועשית כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. On peut voir donc ici qu'il y a une תשובה à deux vitesses, à deux étapes. Il y a tout d'abord, eh bien, la teshuva due à cette brit mila que Dieu nous fait dans nos cœurs. C'est-à-dire une tshuva mais ahava, le ahava et Hashem Elohecha. Et ensuite, en résultat de cette ahava Hashem, eh bien, tu as envie de faire kol mitzvotav. C'est-à-dire que lorsqu'un homme, un enfant, un jeune, aime ses parents, eh bien, il fait ce qu'il leur demande, non plus parce qu'il a peur d'être privé de dessert ou privé de je sais pas quoi, mais parce que tout simplement, il aime ses parents. C'est-à-dire, donc, c'est l'ambiance dans laquelle nous sommes actuellement. Évidemment que les Nevi'im ne vont pas tarir à propos de cette névoie qui parle eh bien, d'un retour à notre identité. Car après avoir abandonné complètement la Torah de l'ancien monde, j'ai envie de dire, du monde de l'exil, eh bien, les prophètes nous ont mis en préparation de ce retour extraordinaire du peuple juif. Inne yamim baim, nous dit le prophète Jérémie dans le chapitre 31. Inne yamim baim, viendra un temps, et je tiens à vous le dire, nous y sommes à 100%. Inne yamim baim neum Hashem, vekarati et bet Israël ve et bet Yehuda berit chadasha. Tout d'abord, on voit ici qu'il doit y avoir dans cette résurrection et retour à la Torah, eh bien, une union de bet Israël et Beth Yehuda. Vous le savez, Beth Israël et Beth Yehuda dans le Tanakh, ça fait référence au schisme entre ces deux royaumes, royaume d'Israël et royaume de Judée. Mais ce n'est pas que cela. Beth Israël et Beth Yehuda dans la tradition névouïte, dans la tradition prophétique, il s'agit de ceux qui sont portés sur le Kodesh, Beth Yehuda, et ceux qui sont portés plus sur la nation, c'est Beth Israël. En d'autres termes, eh bien, l'une des réalisations de cette prophétie, c'est le monde d'Ati Veleumi. Lorsque on se place du côté de l'avant-sionisme, eh bien, on a le monde d'Ati. On a le monde également qui a rejeté la Torah et qui est cosmopolite. Va arriver à la fin du 19e siècle la notion léoumite, la notion nationale, et va commencer à se mettre en place de manière institutionnelle, eh bien, la notion nationale religieuse à partir de la guerre des Six Jours. La guerre des Six Jours, et ce qu'on va appeler Gush Emunim, et les implantations dans le Gush Etzion, et le kibbutz Adati, et le village de Kfar Aroé, et ainsi de suite. Toutes ces implantations qui ont mêlé Torah et sionisme Eretz Israël. Donc, c'est une de ces réalisations. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai fait avec leurs ancêtres. Le jour où je leur ai tenu la main pour les sortir d'Égypte, vous savez, comme une maman qui tiendrait la main de son fils qui est encore au jardin d'enfants pour traverser la route. Elle ne peut pas le laisser traverser tout seul, ce n'est pas possible. Aval, le problème, c'est que quand on tient la main à un enfant, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de se détacher. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. Hacher Emma, Efer ou Etberiti? Eh oui, Am Israël, à la première occasion, il a montré qu'il rejetait l'alliance avec Dieu. Par exemple, le veau d'or, par exemple, la faute des explorateurs, et ainsi de suite. Vanochi Baal Tibam, Neum Hashem. Et Dieu dit, à l'époque, je leur ai montré qui était le patron, Baal Tibam. C'est-à-dire, je leur ai montré qui était le Baal Abait. Aval, Kizot Aberit, Asher Echot et Bet Israël. Mais l'alliance que je vais maintenant créer avec le peuple d'Israël, Achare Ayamim Ahem, Neum Hashem. Natati et Torati bekirbam. Cette fois, ma Torah sera ancrée en eux. Ve'al libam ertevena. Et elle sera écrite dans leur cœur. Ve'iti lahem le'elohim. Ve'emma yuli le'am. À ce moment-là, non seulement ma Torah elle sera inscrite dans leur cœur, mais ils seront donc officiellement pour moi ce peuple, et je serai pour eux leur divinité. En d'autres termes, il y a ici une prophétie qui nous dit que viendra un temps, eh bien, où Am Israël ne sera plus rattaché à Dieu parce que, eh bien, c'est quelque chose qu'il a reçu de tradition, ou alors c'est quelque chose, il n'ose pas aller ailleurs, mais parce que c'est quelque chose qu'il ressentira au plus profond de lui. J'ai envie d'être dans la Torah. Lama kacha. Kacha. Je le ressens. J'ai pas forcément une raison extrême, j'ai ressenti le besoin de me rattacher à mon identité. Et les exemples ici pleuvent. Les exemples pleuvent de toutes ces personnes, pas seulement des lambda comme moi, mais de toutes les personnes qui ont eu un rôle important à jouer dans l'histoire moderne d'Israël, qui tout d'un coup se réveillent à un appel, j'allais dire, de la Torah. Et parmi toutes les personnes, eh bien, qu'on pourrait évoquer, je pourrais évoquer ici le Rosh Yeshiva du Machon Meir, le Rav Dov Bigon, qui était parachutiste kibbutznik, complètement hors de l'histoire de la Torah, et qui va tout simplement se réveiller un jour à la parole de Dieu. Et il veut revenir à ses origines, à son identité, et il devient Rosh Yeshiva. On peut évoquer également, et je crois que je l'avais vite fait évoquer la semaine dernière, un des grands dirigeants, si vous voulez, du sionisme, Moshe Haas, qui était complètement contre cet idéal à la base du sionisme Bichlal et du judaïsme entre parenthèses, lorsqu'il dit la religion de Moïse, eh bien, son rôle historique est terminé. Il faut maintenant, eh bien, qu'elle laisse la place au christianisme. Il dira cela en 1842, et c'est 20 ans plus tard, en 1862, qu'il se reprendra complètement voyant la réussite du début de Chovevé Tzion, qu'il comprend qu'il a fait une terrible erreur, et il dit, après 20 ans où je me suis fourvoyé et j'ai été complètement éloigné de mon identité, eh bien, je suis tellement heureux de pouvoir maintenant participer de manière active à la reconstruction non seulement du pays, mais de l'identité juive du peuple d'Israël. Donc, les amis, c'est de cela qu'on parle. Pas un réveil violent, mais un réveil extrêmement profond, basé sur « Ve'alibam ertevena ». On peut retrouver ici, dans le livre de Isaïe, Ishayahu Anavi, au chapitre 35, nous dit le prophète Isaïe, alors c'est un verset qu'on connaît bien, puisqu'on danse dessus. Lorsque le prophète Isaïe nous dit « Uvduye Hashem yeshuvun, uvau tzion berina, vesimchat olam al rosham. Sason vesimcha yasigu, venasu yagon vaanacha. » Les amis, nous on a l'impression que c'est une évidence. Ce sont des versets qu'on connaît très bien, on danse dessus. Mais dites-vous bien que ce n'était absolument pas le cas de la, du peuple juif jusqu'à notre génération. Lorsque les Juifs arrivaient en Israël, eh bien, est-ce que c'était Berina, Besimcha, Vesason, Vesimcha Yasigu, Venasu Yagon Vaanacha? Eh bien, non. Ça n'a été possible que dans notre génération où, eh bien, le retour en Israël n'est pas seulement une motivation nationale, mais bel et bien une motivation également toranique. Alors, très bien. Maintenant qu'on a mis cela en place, eh bien, on va dire ce retour se vérifie d'abord évidemment dans les chiffres, on va les évoquer dans quelques minutes, mais s'évoque également pas seulement dans une petite partie de la population, j'allais dire une branche sectorielle du peuple juif, les religieux, mais ça va toucher le peuple juif. Quelqu'un m'a demandé cette semaine, enfin ce matin pour être exact, est-ce qu'on a le droit de dire l'expression « Toda Lael » ? Connaissez cette expression ? Toda Lael. Ça veut dire merci Dieu. Dans la société israélienne, pour remercier Dieu, il y a deux expressions. Il y a Toda Lael et il y a Baruch Hashem. Maintenant, de manière assez intéressante, le public avec kippa a plus tendance à dire Baruch Hashem et le public sans kippa a plus tendance à dire « Toda Lael ». Tu demandes à un bon chiloni, bien comme il faut, « Alors, comment ça va les affaires ?»« Toda Lael ». Et donc la personne me demande ce matin, « Est-ce qu'on a le droit de dire « Toda Lael » puisque ce sont les chilonimes qui disent ça ?» J'ai répondu, « Eh bien franchement, c'est de très mauvais chilonimes. Si la première chose qu'ils ont à la bouche quand on leur demande comment ça va, c'est dire « Merci Dieu ». Tu vois pas le chiloni. Et effectivement, la société israélienne, à part quelques bastions bien gardés qui donnent 3-4 mandats à Meretz dans les élections, eh bien, à part ces bastions-là, l'écrasante majorité de la société israélienne, ma'amin ba'Hashem, me'od. Ça ne fait pas forcément d'eux des hommes pratiquants de la halakha, mais et ils ont pratiquement, c'est-à-dire, je vais pas te donner des chiffres que je n'ai pas, mais en termes de Emouna, eh bien, on parle de chiffres absolument énormes pour ce qui est de la Emouna Bahashem. Et l'expression Toda Lael n'en est qu'un révélateur. Et c'est ce qu'on va voir ici dans le chapitre 36 du livre de Yechezkel. Nous dit Yechezkel à Navi. La reine est mort, les bêtes Israël. Va et dis au peuple juif. Ko amar Hashem. Ainsi parle Dieu. Lo le ma'anchem ani osé bet Israël. tout ce que j'amène comme Géoula là maintenant, ce n'est pas pour vous que je le fais. Kim leshem kochi, asher chilaltem bagoyim, asher batem shama. Nous dit Hezkel Hanavi, nous avons fait un énorme chilul Hashem. Nous, le peuple juif, nous avons fait un énorme chilul Hashem. Matai, quand est-ce qu'on a fait le chilul Hashem? Eh bien, quand on est parti en exil. Am Israël en exil, ça s'appelle chilul Hashem. Il est important de le souligner. Nous dit le prophète Hezkel, il n'y a pas de plus grand chilul Hashem que le peuple juif en exil. Donc il dit, j'amène pas la Géoula pour vous, je l'emmène pour moi. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם וידוע גויים כי אני השם נאום השם אלוהים ויקדשי בכם לעיניכם. C'est-à-dire que les goyim se rendront compte du kiddush Hashem énorme qui se passe lorsque non seulement vous revenez physiquement sur la terre d'Israël et en plus de ça, eh bien vous revenez vers moi. On parle aujourd'hui dans la... Oui, Daniel, si vous voulez parler, il faut mettre le micro. Ou c'est pas à moi que vous voulez parler. Non ? Ah, je sais pas si vous pouvez ouvrir le micro. Sinon, dans le chat, vous pouvez écrire dans le chat si vous avez une remarque, une question ou quoi que ce soit. Bikitsour, donc aujourd'hui, dans les médias internationaux, on parle du miracle israélien par rapport au vaccin et tout ça. Alors aujourd'hui, c'est par rapport au vaccin. Mais effectivement, la société israélienne est devenue, aux yeux du monde, eh bien, un kiddush Hashem à plein d'égards. Vela karti etrem minagoyim vekibatsti etrem mikol haaratzot veveti etrem el admatrem. Donc ça, c'est ce que nous avons vécu, évidemment, le retour des exilés. Vela karti etrem minagoyim. וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. Et Dieu nous dit, par l'intermédiaire de Yechezkel, qu'il va nous jeter sur nous une eau purificatrice. מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אטהרתכם. De quelle tahara on parle ici? De quelle touma on a besoin d'être purifié? Eh bien, de touma tagalout, de l'impureté de l'exil. Et comment est-ce qu'on devient pur à ce niveau-là? Eh bien, on devient israélien. Ça veut dire, pas seulement israélien, j'ai ma carte d'identité, mais on devient israélien dans notre façon de vivre, on parle hébreu, on est impliqué dans la vie du pays. On devient israélien. Et à ce moment-là, « Venatati lachem lev chadash, verua chadasha eten bekirbechem, veasiroti et lev ha'even » Mibesarchem venatati lachem lev basar. Jusqu'à présent, le peuple juif avait un cœur de pierre. Il est temps de retrouver un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui ressent son lien avec Kadosh Baruch Hu. Veruach chadash etan bekirbechem vasiroti et lev ha'even mibesarchem venatati lachem lev chadash. Ve'et ruchi etan bekirbechem. Et je placerai mon esprit en vous. ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם אותם ועשיתם סליחה וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. Donc on part ici d'un processus fantastique mis en place où eh bien ça y est, Am Israël revient vers Dieu. Alors, est-ce qu'il est dit ici comment? Non, il n'est pas dit ici comment. Mais prenons un exemple tout bête. La loi sur le Shabbat. La loi sur le Shabbat qui est en vigueur en Israël actuellement. Eh bien, c'est une des façons de réaliser la prophétie de Yechezkel. Ve'asiti et asher bechukotai telechu. Et je ferai en sorte qu'ils aillent dans mes chemins. Est-ce que ça veut dire que tout le monde fait Shabbat? Non, pas encore. L'athlète. Donc on voit ici un processus mis en place par Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un autre processus qui doit absolument également être mis en place. Et ce processus, il ne peut pas être simplement mimala lemata, mais il doit être également mimata lemala. Il doit venir également du bas vers le haut et non seulement, et pas seulement, c'est-à-dire du haut vers les bas. Est-ce qu'il y a un processus de Chazara Bitshuva aujourd'hui dans la société juive? Hein? Eh bien, je pense, sans vouloir m'avancer, je pense que j'ai envie de poser une question. Une question à laquelle vous pouvez répondre vous-même. Toutes les personnes présentes sur ce Zoom actuellement, est-ce que vous aviez l'habitude, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 30 ans, 40 ans, de prendre le temps que vous prenez aujourd'hui pour étudier la Torah? Et si la réponse est non, est-ce que c'était uniquement un problème de temps, parce que vous étiez au travail ou quoi que ce soit? Ou c'était au-delà du problème de temps, c'est juste qu'on n'avait pas envie. Un petit peu des deux, hein? Un petit peu des deux, j'imagine. Attendez, il y a une question, enfin une remarque. Non. Non. Bah d'accord, c'est, au moins ça le mérite d'être clair. Ça le mérite d'être clair. Non, on ne prenait pas le temps d'aller étudier la Torah. Et bien donc, dans notre petit groupe, à notre petit niveau, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, c'était moins disponible. Il y a fait mode. C'était moins disponible ou même si quand c'était disponible, je faisais l'effort d'aller à mon cours de Torah. Parce que… un peu des deux, voilà. Parce que, attention, je ne parle pas du Zoom. L'année dernière, il n'y avait pas le Zoom et pourtant les gens allaient quand même étudier la Torah. C'est-à-dire que de tout temps, il a fallu, eh ben, le soir, en hiver, sortir de chez soi, prendre la voiture et aller étudier. Moi, personnellement, de toute façon, il y a 20 ans, je ne le faisais pas. J'étais pas religieux. Mais j'ai l'impression que le public qui vient aujourd'hui étudier Baruch HaShem tous les jours et qui en redemande. Non. Non. Moi, je vais vous dire, j'ai parlé, et c'est, je vous donne un cas purement personnel. J'ai parlé, il n'y avait pas les mêmes moyens, c'est sûr. Ah là 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 là. C'est très gentil, c'est trop gentil. Mais il ne s'agit pas que de moi, il ne s'agit pas que de moi. Je vais vous dire, j'ai fait un Zoom la semaine dernière, lundi dernier. Il y avait la Askara, le Yortzeit, de celui qui a été le premier de mes maîtres, celui qui m'a fait rentrer dans la Torah, le rabbin de Metz, le Rav Bamberger Zatzal. Et donc, c'était son Yortzeit la semaine dernière, sa Askara. Donc, j'ai parlé pendant le Zoom. Et après, je me suis entretenu avec mon oncle, le grand rabbin Bruno Fison de la Moselle, et je lui ai demandé, je lui ai dit, regarde le nombre de gens qui étaient au Zoom. Si on avait fait une Askara à Metz, il n'y aurait pas eu autant de gens. Et deuxièmement, toi, regarde combien tu donnes des cours maintenant dans la semaine en Zoom, et regarde le nombre de gens qui se connectent. Est-ce que les gens, tu faisais depuis longtemps des cours, depuis que tu es rabbin, depuis 25 ans, est-ce que les gens, ils y venaient à tes cours? Il me dit, mais pas du tout. Avant, je donnais un cours par semaine, il y avait 4 personnes qui venaient. Et là, maintenant, quand je fais un cours pendant la semaine, dans le Zoom, il y a 40 personnes. Alors quoi? C'est juste des gens qui avaient la flemme de prendre la voiture? Et il m'a dit, je parle même pas de tes cours à toi, où toi, tu donnes à peu près 3 à 4 cours par jour. Et les gens, ils demandent. Et il reçoit également, je sais pas si vous recevez également, mais il reçoit les petits audios que j'envoie tous les matins sur la halakha yomit. Il dit, mais les gens, avant, tu leur demandais de faire une halakha, il n'y avait que les piliers de la synagogue qui voulaient entendre la halakha du jour. Ça n'existait pas que les gens lambda, c'est-à-dire nous, eh bien, on a envie d'étudier la halakha tous les jours. C'était pour les mecs de la yeshiva, la halakha du jour. Et regardez aujourd'hui comment, eh bien, les gens, tout simplement, ils ont envie. Ils ont envie. Alors, Shalom, oui, le besoin… Attends, ah, là, ça va trop vite. Deux secondes. Shalom, oui, le besoin d'étude de la Torah est plus important à présent. Voilà, je suis d'accord. C'est pas la peine d'être sur place. Alors là, je ne peux pas être moins d'accord avec vous. Et là, après, il y a marqué « Vive le Zoom ». Alors, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, on comprend ce que veut dire la phrase « Gam Zoom le Toiva », hein, c'est une grande phrase du Talmud, Gam Zoom le Tova. Il n'empêche que non, le Zoom ne pourra jamais remplacer l'étude de la Torah Panim El Panim. Jamais. Ok, je le dis et le redis. Ah, je vous le dis, hein, Bezrat Hashem, le corona va bientôt terminer. Ne pensez pas qu'on va pouvoir toujours rester en Zoom, même si on restera en Zoom pour les gens qui ne sont pas physiquement en Israël, évidemment, ou à Jérusalem. Mais je compte sur tous les Jérusalémiens pour que lorsqu'on réouvre les ouvertures de cours en chair et en os, et pas seulement en live, eh ben, que les gens viennent étudier. Parce que en malasot, une étude panim el panim, c'est beaucoup plus fort qu'une étude zoom el zoom. Donc le zoom, c'est génial, je suis d'accord, mais ça ne remplacera jamais une étude panim el panim. Je pense qu'il faut bien le préciser. Ça a l'air. Ensuite, on nous dit, en France, il n'y avait pas de Torah. Terre d'Israël, soif maintenant de l'entendre. Le premier cours est le plus important. Mince alors, on va louper la 5G. On espère qu'il y aura toujours des... Vive cette étude. Bon, alors, dès qu'il sort, la 5G, c'est très bien, tout va bien. Bientôt, ça ne sera plus seulement un zoom, mais ce sera un hologramme. C'est-à-dire que vous m'aurez dans votre salon en grandeur nature. Et si j'ai soif, vous pourrez même me donner un verre d'eau par hologramme. C'est-à-dire, nous, on n'arrête pas le progrès. Johan, tu as du boulot pour les prochains cours, parce qu'à mon avis, la technique des hologrammes demandera un peu plus de boulot que la technique du zoom. Mais bon, ça, je laisse les patrons s'en charger. Quoi qu'il en soit, donc, il faut également un investissement mimata lemala, du bas vers le haut et pas seulement du haut vers le bas. Ce qu'on vient de voir, c'est que Akadosh Baruch Hu va amorcer ce processus de retour. Mais il faut que nous aussi, on puisse répondre. Et donc, ça nous amène, hop là, ça nous amène à la troisième partie, le Ta'alich HaTeshuva. Le dernier des prophètes, Malachi, qui d'après nos sages n'est autre que Mordechai HaYehudi de la Megillah, eh bien, Malachi HaNavi, dans le chapitre 3. En fait, les amis, ce que je vous ai mis ici, ce sont tout simplement les derniers versets de la névoie. Malachi est le dernier prophète. Il y a trois chapitres dans le livre de Malachi. Nous sommes dans le troisième chapitre, dans les derniers versets de la névoie. Eh bien, que nous dit Malachi ? Zichru Torat Moshe Avdi, Asher Tziviti Oto Bechorev Al Kol Israël, Chukim Umishpatim. Donc, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rappelez-vous de la Torah de Moshe ? Si Malachi m'avait dit, rappelez-vous de la Torah, j'aurais pensé que c'est la Torah de quelqu'un d'autre ? Non, la Torah, comme disent nos amis tunisiens, la Torah est une. Donc, la Torah, c'est la Torah de Moshe. Ah, j'ai pas besoin que tu me dises Torah de Moshe. Eh bien, en fait, si, j'ai besoin que tu me dises Torah de Moshe, parce qu'il n'y a pas en vérité une Torah, il y en a effectivement deux. Il y a la Torah de Moshe, et face à la Torah de Moshe, il y a la Torah de Aaron. Torah de Moshe face à Torah de Aaron. Ce n'est pas la même Torah. Effectivement, la Torah de Moshe, d'abord d'où je sais qu'il y a une Torah de Moshe et une Torah de Aaron, et bien simplement parce que la Torah me le dit dans le verset, dans le livre de Shemot, lorsqu'on me dit « Daberu el kol adat bene Israël », Rashi me dit, comment ça, Daberu? Vechi Aaron medaber? Alon Emar atat daber? C'est-à-dire que depuis quand il faut que vous parliez tous les deux? C'est Moshe qui est censé parler. Et nous dit Rashi, il nous amène le Midrash, qui nous explique qu'en fait, à chaque fois que Dieu parlait, Moshe entendait, et après Aaron entendait. Et Moshe demandait à Aaron, Mashamata, et Aaron demandait à Moshe, Mashamata, qu'est-ce que toi t'as entendu? Qu'est-ce que toi t'as entendu? Va dibour yotze mi ben shenehem. Quel est le prénom du Rav Bamberger? Zal. Eh bien, le prénom du Rav Bamberger, c'était le Rav Moïse Arié Alevi Bamberger Zatzal. Ok? Bekitsur, donc la Torah de Moshe face à la Torah de Aaron. Quelle est la différence entre les deux Torot? Eh bien, on a pu le voir de manière très très claire dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha qu'on a lu Shabbat, paracha de Kitissa. Eh oui, quand il y a le veau d'or, eh bien, on voit tout de suite la différence de réaction entre Moshe et Aaron. Pour Moshe, c'est pas compliqué. Vaudor. Très bien. Laissez-moi vérifier dans mon calepin. Vaudor, Vaudor, Avodazara, Avodazara, Chayav Mita. Ok, Yehoshua, prends les Lévim, tu m'en tues 3000, on règle ça vite fait. Ça, c'est Moshe. Tac. Yala, Alakha, ça bouge pas. Si tu fautes, tu prends une claque. C'est Moshe. C'est intransigeant. C'est Emet. Et puis, il y a Aaron. Aaron, quand les Bnei Israël ils veulent faire le veau d'or, il dit, taf, bon, bah alors je vais vous aider. Et je vais vous aider pour essayer de cachériser ça. Et finalement, de vous faire sortir de la Avera. Je descends avec vous pour ne pas vous laisser tout tomber et pour pouvoir vous faire sortir de là-bas. Je suis prêt à faire une Avera pour vous faire faire tchouva à la fin. Et ça, est-ce que c'est permis dans la Torah de faire une Avera pour faire la volonté de Dieu? Alors, tchouva, l'eau. Assour. Assour de faire des avérotes. Je préfère le dire tout de suite. Que les choses soient claires, il est interdit de faire des avérotes dans le judaïsme. Oui, Zecharia.
Yael.
Ah, tu dis Yael et Sisra. Alors, j'ai deux problèmes avec ce que tu dis. La première, c'est que Yael, c'est pas du tout évident qu'elle est juive. Puisque je te rappelle que Yael, elle est Eshet Rever Akeni. Elle est mariée avec quelqu'un qui vient du peuple de Kéini. Est-ce qu'elle est convertie? Est-ce qu'elle n'est pas convertie? D'après nos sages, c'est pas du tout évident qu'elle fait partie du peuple juif. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, disons qu'on va se fier aux avis qui dit que oui, elle est juive. Eh ben, à ce moment-là, Zemachoacher, Zepikouach Nefesh, puisque c'est Din Milchama, il y a Sisra, qui est l'ennemi numéro un, on est en pleine guerre, eh bien, il est dans sa tente. Elle fait ce qu'elle peut pour le tuer, c'est Midin Milchama. Et donc, ce n'est pas une Avera, Midin Milchama. Donc, je ne suis pas prompt à mettre Yael dans l'histoire, même si ce qu'elle a fait est une action extraordinaire. Elle a fait une très bonne action. Mais je ne suis pas certain que ça rentre dans le critère de « j'ai fait une Avera pour faire le bien ». Par contre, il y a un exemple qui est connu, l'exemple le plus connu de cela, c'est… Attendez, là, il y a quelqu'un qui est en train de se battre pour le Zoom. Le Zoom est mieux. Personne ne vous interrompt. Dans vos cours en plein air, il y a toujours un zèbre pour vous interrompre. Non pour poser une question, mais pour montrer son savoir. Ah là 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 là. Je pense que tu as été traumatisé par certains zèbres qui ont étudié. Alors, tu as raison dans ce que tu dis peut-être, mais d'abord, dans le Zoom, il peut y avoir des bugs au niveau Internet. Et là, ce n'est pas un zèbre. Mais c'est bien plus grave. Et des fois, la connexion se coupe. Donc là, c'est un problème dans le Zoom. Et deuxièmement, le problème du zèbre en plein air, eh bien, tu as raison, mais ce n'est pas la faute du zèbre. C'est la faute de moi qui ne suis pas assez fort pour le remettre en place et ne pas accepter qu'il dérange le cours. Je n'arrive pas. C'est ma faute. Okay, c'est ma faute. Ayez un petit peu d'indulgence. J'ai beaucoup de mal, surtout quand le zèbre en question, en général, fait le double de mon âge. Je n'ose pas l'arrêter. Je n'ose pas. C'est pas bien. C'est ma faute. Slach lanu. J'avoue que mon maître, le Rav Cherki, lorsqu'il y a quelqu'un qui pose une question qui ne devrait pas être posée et qui n'est pas truc, il dit c'est une question qui n'a rien à voir avec le cours. Je ne répondrai pas. J'avoue, mais je ne sais plus, je n'y arrive plus, je n'arrive pas. Peut-être qu'un jour j'y arriverai et que les zèbres deviendront les lions de Judée. Qui sait? Qui sait? Alors, je disais, est-ce qu'on a le droit de faire cela? Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de transgresser la Torah, sauf ceux qui ont la prérogative, d'après la Torah, de le faire. C'est qui? Eh bien, ce sont les prophètes. Les prophètes, ils ont une possibilité qui s'appelle Horaat Shaa Shel Navi, et ils ont le droit, pour un temps, pas de manière permanente, mais pour un temps, de faire transgresser la Torah dans un but de tshuva global. L'exemple le plus connu, c'est celui de Eliyahu HaNavi sur le mont Carmel. Lorsqu'il va faire sa compétition de qui est le meilleur prophète, est-ce que c'est lui ou les faux prophètes de Baal? Et donc, on fait une compétition. Chacun va créer un autel sur le Mont Carmel. On va chacun y sacrifier une vache et on verra vers qui le feu descend du ciel. Seulement, c'est complètement interdit ce que fait Eliaou, parce que nous sommes dans une époque où il y a le Beth Amikdash. Et donc, les seuls endroits, le seul endroit où on peut faire le sacrifice, c'est au Beth Amikdash. Et si on fait un sacrifice à l'extérieur, ça s'appelle Shrut Echout, Vese, Issou, Karet. Mais, comme c'est un prophète, et qu'il fait ça de manière temporaire pour faire faire tchouva au peuple, alors c'est moutar. Et à la fin, tout le peuple dit, Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. Et il y a une grande, grande, grande teshuva qui se met en place à ce moment-là. Donc, le Navi, il a cette prérogative. Le Sanhedrin, il a également cette prérogative, mais il a besoin d'être le Sanhedrin. C'est-à-dire que le Navi, il peut être tout seul, il n'a pas besoin de rassembler 71 Nevi'im avec lui. Le Sanhedrin, en tant que Sanhedrin, il peut faire « et la sot la shem » et « feru Torah Techa » comme par exemple a fait Rabbi Yehuda Anassi avec son Sanhedrin, où il a décidé de mettre par écrit la Mishnah. C'est interdit de mettre par écrit la Mishnah. « Dvarim shebe'al peh, i'at rachai le'omram birtav » et « dvarim shebirtav, i'at rachai le'omram be'al peh » Les choses par écrit, tu ne dois pas les dire par cœur. Les choses par oral, tu ne peux pas les mettre par écrit. Mais en malasot, il fallait le faire à ce moment-là, il l'a fait. Donc, maintenant qu'on a compris qu'il y a cette Torah de Moshe face à la Torah de Aharon, et la prophétie, eh bien, c'est la, on va dire le oracha du prophète, c'est ce qui permet de faire tchouva quand les moyens moshites ne marchent pas, alors il y a les moyens aharonites. Malachi, qui est le dernier prophète, vient nous dire à partir de maintenant, Zichrut Torah Moshe et pas Torah Aharon. Parce que maintenant, il n'y a plus de prophétie, donc tu ne peux pas commencer à dire « J'ai le droit de redresser les mitzvot, moi je sais mieux que c'est pour le bien. » Non. Il y avait un homme qui s'appelait Shabtai Tzvi qui a dit « Puisque Dieu, il est présent partout, eh bien, il faut pouvoir le dévoiler partout, donc il faut faire également les avérot, particulièrement les avérot dans la dimension de la sexualité. Comme ça, on peut dévoiler Dieu même là-bas. » Bah non. Non, c'est assourd. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, Zichru Torat Moshe, Asher Tziviti, Bechorev al Kol Israël, Chukim u'Mishpatim. Certes, mais le problème, c'est qu'avec la Torah de Moshe, il y a des gens qui ne font pas de Tshuva. Il y a des gens qui ont besoin de l'ambiance aaronite pour faire tes Tshuva. Et à ce moment-là, le prophète nous dit, ne t'en fais pas. Iné anochi sholeach lachem, et Elia Navi Lifne Yom Hashem Agadol Vanora. T'en fais pas, avant Yom Adin, j'enverrai un prophète, Elia ou un Navi, il reviendra, et donc il pourra remettre en place le côté Aaroni. T'inquiète pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est quoi le boulot de Elia ou un Navi? Eh bien, son boulot n'est pas d'être posek alacha, son boulot c'est Veishiv Lev Avot Albanim, Velev Banim Alavotam. Vous comprenez que s'il y a besoin de ramener le cœur du père à celui du fils et celui du fils à celui du père, c'est qu'ils se sont séparés. Si les cœurs sont de toute façon reliés, il n'y a pas besoin d'Eliyahu Hanavi. Il y a 300 ans, le fils était exactement dans le chemin du père, point. Il n'y avait pas besoin d'Eliyahu Hanavi. D'ailleurs, le père était cordonnier, le fils allait être cordonnier, le petit-fils sera cordonnier aussi. Zekacha. Mais depuis 200 ans, depuis la Révolution française et l'émancipation, eh bien, le cœur des pères qui étaient encore attachés à la tradition de la Torah était complètement déconnecté des cœurs des fils qui avaient été assimilés dans l'université en Europe. Et la séparation, on la voit aujourd'hui. On la voit aujourd'hui, bien évidemment. Il y a ce qu'on appelle Mishpachat Hashomrim. Alors, je suis désolé, je vais faire un mashal en hébreu. Et seul celui qui comprend l'hébreu pourra véritablement comprendre ce que je dis. Je vais le traduire, mais ça sera beaucoup moins drôle une fois que ça sera traduit. Il y a ce qu'on appelle Mishpachat HaShomrim, la famille des Shomrim. C'est une famille qui s'étend sur 4 générations. Première génération, Shomer Mitzvot. Il est le Shomer des Mitzvot. Deuxième génération, on est descendu un peu. Il est Shomer Masoret. Il est traditionnaliste, il garde la tradition. Troisième génération, il est ce qu'on appelle en hébreu Shomer Mishkal. C'est rare, autant pour moi. Tu vois, j'ai tellement pensé à le traduire en français. Troisième génération, il est Shomer Atzahir. Shomer Atzahir, c'est l'organisation mouvement de jeunesse qui était de gauche et anti-religieuse. Et la quatrième génération, aujourd'hui, il est Shomer Mishkal, il fait attention à sa ligne. Donc, c'est Mishpachat HaShomrim. C'est-à-dire, sauf que le fils, qui est Shomer Mishkal, qu'est-ce qu'il fait avec son arrière-grand-père, dont il y a la photo dans le salon, qui était rabbin en Pologne? Qu'est-ce qu'on fait? On est maintenant à près de 3 semaines de Pessah. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est les 4 enfants de la Haggadah. Ce n'est pas une blague. C'est les 4 enfants de la Haggadah. Dans chaque famille, on a le premier enfant, c'est le Chacham. C'est l'arrière-grand-père. On a tous dans nos familles un arrière-grand-père qui avait un Shtreimel, il y avait une barbe, il y avait des payes. Ou alors il était en Algérie, il était en Maroc, il était en Tunisie. C'était le frère Abou Tratsira qui manquait dans la lignée. On a tous quelqu'un dans notre famille qui est comme ça. Et puis après, il y a le fils qui a voulu se révolter contre son père. Ou Racha. Juste parce que il veut pas être comme son père. C'est la révolte freudienne. Mais il est complètement, il connaît tout. Il connaît tout. Mais il est anti. Seulement, ce Racha, il a un fils. Et le fils du Racha, il voit son père manger des huîtres, du cochon et ce que tu veux. Mais toutes les semaines, il va chez papy. Et papy lui raconte des histoires de Moshe Rabbeinu et de toutes les histoires des tzadikim et tout ça. Alors il est tiraillé, le pauvre. Il a papa à la maison et il a papy et il sait pas quoi faire. Il sait tellement pas quoi faire qu'il est tam. Il est tam. Il est perdu un petit peu. Et puis ce tam qui fait tradition, mais il sait pas vraiment pourquoi, il a un fils. Et son fils, ben, il a même plus à qui poser la question parce que son père, il saura pas lui répondre. Son grand-père, il a tout lâché. Son arrière-grand-père, il est plus que sur une photo parce qu'il est plus là. Et ben, donc, cet arrière-petit-fils, il est chez Ino Yodea Lishol. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé dans toutes les familles. Et bien, nous dit le prophète Malachi, Al Tidag! הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו ויקני את הארץ חרם. Les amis, ça s'est réalisé ça? Il est venu Eliyahu Hanavi? Et il a rassemblé les cœurs des pères avec les enfants avec les pères? Alors, bah, techniquement, il n'y a pas eu un monsieur qui s'appelle Eliyahu. Mais, nous dit le natif de Volozhin, lorsque Am Israël, en tant que peuple, décide d'un Mahalach, décide d'un projet commun, que ce soit le sionisme ou que ce soit le Chazara Bitshuva, nous dit le natif de Volozhin, si c'est tout le peuple juif qui le fait, alors ça a la dimension de Eliyahu Hanavi. Le cinquième qui est parti, il dit, il y a aussi le cinquième qui est parti d'après Manitou, évidemment. Mais la question du cinquième, c'est où il est parti. Il y a 2 cinquièmes possibles, tu l'as bien compris. Il y a le cinquième qui est peut-être marié avec une Goya. Et donc, il n'est pas à la table du Seder parce qu'il est marié avec sa Goya. Ou alors, il y a le cinquième qui est rentré en Israël. Qui était tellement perdu, qui avait tellement plus de racines, qui a décidé d'aller à l'origine de ses racines. Et qui est redevenu l'hébreu de Manitou. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, donc, eh bien, nous sommes en train de vivre cette Hazara Bitshuva. Prenons simplement un exemple. Là, on est entre nous, on est entre Français. Mais vous savez quelle est l'une des organisations qui touche le plus de Juifs en termes de Hazara Bitshuva? Et ce n'est pas forcément une organisation dans laquelle je me reconnais dans l'enseignement de la Torah. Et pourtant, eh bien, En Mala Asot, il y a absolument rien à dire. Rien à dire. Il y a un travail extraordinaire qui est fait. Et je vais essayer de retrouver le chiffre qui m'intéresse. Voilà. D'après le Rav Zamir Cohen, qui est à la tête de l'organisation Idabrout, eh bien, il y a plus, attention, tenez-vous bien, il y a plus de 2,5 millions de connexions sur ses cours par mois. Enfin, pas que ses cours à lui, mais sur les cours de Idabrout. C'est énorme. C'est énorme. Et encore une fois, je ne suis pas forcément fan du message de Hidabrout, mais il est évident que c'est des gens qui travaillent pour la Khazara Bitshuva. Et je parle ici que de Hidabrout. Mettez avec ça les gens de tous les sites Chabad mis ensemble, la Midrashet Yehuda Manitou, Bekitsour. C'est un nombre incalculable de gens qui sont en train tout simplement de revenir à la Torah de manière absolument incroyable. Et je me permets ici de vous citer le prophète, voilà, Amos, pour conclure notre histoire, qui nous dit le prophète Amos, « Ine yamim baim neum Hashem, ve ishlachti ra'av ba'aretz. » Il y a un temps, nous dit Amos, où viendra une famine dans le pays. Alors attention, « Lo ra'av l'alechem, ve lo tzama l'amaim. » Ce ne sera pas une famine de pain ou d'eau matérielle. « Kim lishmoa et divre Hashem. » On voudra entendre la Torah. Venaum yam ad yam, mitzafon vad mizrach, yoshot tetu levakeshet devar Hashem, velo yimtzau. Vayom ahu, it alafena abetulot ayafot, vabachurim batzama. On n'en peut plus, on veut de la Torah, on veut de la Torah, on n'en peut plus. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, qui est abonné à ma chaîne YouTube, et le dimanche matin, je fais un petit cours sur l'histoire juive. Le lundi matin, je fais un cours sur la tefila, et le mardi matin, je fais un cours sur les Pirkei Avot. D'ailleurs, vous pouvez tous, vous souscrire à ma chaîne YouTube, et deux, regarder les cours en replay ou en live, comme vous voulez. On a étudié, dans l'histoire juive, on a étudié la période du deuxième temple en 6 cours, la période du premier temple en 5 cours, et là, on est rentré dans la période du Mishkan. Oui, je sais, je vais en arrière, après, je repartirai en avant. On étudie dans la tefila, on a étudié pendant 40 cours toute la Hamida. Donc toute la Hamida est expliquée en français, Kriyat Shema ou Birkotea. Et on est arrivé hier matin, on a fait la première bracha du Shema. On a fait le premier paragraphe du Shema, on a fait les brachot d'avant. Et on a fait maintenant le premier paragraphe du Shema. Donc vous avez le droit de prendre en chemin, quoi qu'il en soit, pendant 2 semaines. Ni le dimanche, ni le lundi, ni le mardi. Pourquoi il n'y a pas cours? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ça va, c'est bon. Ben non, les gens, ils te disent, Tzmeim le Dvar Hashem, Tzmeim le Dvar Hashem. Eh bien, les amis, nous avons complètement, mais alors complètement, atteint cette réalité-là. Je tiens simplement, je sais que vous n'aimez pas beaucoup les chiffres, mais juste quand même que vous compreniez de quoi on parle. Combien y avait-il avant la Shoah de juifs inscrits dans des yeshivot, Talmud Torah, qui étudiaient la Torah? Dans le monde! Avant la Shoah, dans le monde entier, sont recensées 12 000 personnes qui étudient la Torah. 12 000. Dans des yeshivot ou dans les Talmud et Torah. Je ne parle pas des enfants, hein. Je parle des adultes. Quand on regarde, sans vouloir vous offenser, en 2018, c'est plus de 151 000 personnes qui sont inscrites dans des yeshivot. Je pense que les chiffres parlent tout seuls. Combien y a-t-il de yeshivot en Eretz Israël en l'année 1941? En 1941, en Israël, il y a 28 yeshivot. 28. En 2017, il y en a 1900. Juste que vous compreniez de quoi on parle. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup les chiffres, mais Bechol Zot, en Israël, vous vous rappelez du fameux statu quo qui a été mis en place entre le Chazon Ish et Ben Gurion ? Pour laisser tranquille les bachourim de yeshivot. Bon, c'est pas notre sujet, l'armée et tout ça, mais vous savez de combien de bachour yeshiva on parle? On est en 1951, le Chazon Ish rencontre Ben Gurion. On va mettre en place les bases du statu quo. On laisse tranquille les hommes de yeshiva. Oui, d'accord. Seulement, il y en a à cette époque-là, 400. 400. 400. Oui, bon, bah d'accord. En 2017, c'est près de 80 000. Ça fait un mandat, les amis. Donc, tu comprends que ce n'est pas la même configuration politique. Ce n'est pas du tout le même idéal. Bon, alors, je ne reparle pas des problèmes de l'armée. Mais vous comprenez que le monde de la Torah, il a grandi de manière exponentielle, de manière incroyable, incroyable. Donc, je pense que on est en train de voir tout simplement eh bien, une évolution énorme, énorme, énorme. Je parlais de la Emouna. Eh bien, juste sachez qu'une étude récente, donc c'est l'étude qui date de 2016 en Israël, qui veut regarder un petit peu le degré de Emouna des gens, eh bien, chez les 55-65 ans, c'est 85% des Juifs qui sont Ma'aminim Ba'Hashem. Dans les 45-54, c'est les moins Ma'aminim. Ils sont 60%. Mais quand on va plus jeune, alors ça remonte. Chez les 18-24 ans, c'est 82%. Chez les 25-35, on est à 72%. Et chez les 35-45, on est à 70%. Donc il y a un mashber, tu sais, c'est le mashber de la quarantaine. Le mashber de la quarantaine, t'arrêtes d'être ma'amine et tout, mais ça revient après. Ça revient après. Mais pour vous dire qu'on est à une société qui est pashut, ma'amina ba'ashem. Une société qui revient vers Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, il y a encore plein de choses à faire, bien sûr, mais nous sommes tout simplement la génération qui a réalisé le Hashiva, Hashivenu, c'est-à-dire Hashem Elecha Venashuva, Chadesh Yamenu, Kekedem. À bientôt les amis, ve Erev Tov Lekulam.
Merci beaucoup.
S'il y a des questions, c'est maintenant.
Avant les questions, on aimerait dire que le cours est Refoua Shelema de Avraham Ben Yaakov Vemasouda, Refoua Shelema pour notre ami Avraham. C'est le moment, chers amis, les questions, ouvrez vos micros.
Je peux demander quelque chose?
Tout à fait.
Je voudrais savoir une traduction à
Yehezkiel. Bah oui. Oui, a priori, il y a des Bibles entières qui sont traduites par le rabbinat de France. Donc, dedans, il y a aussi... J'ai compris. Excusez-moi, je croyais que vous vouliez une traduction du livre de Yehezkiel. Que veut dire le mot Yehezkiel? Ah, ben, c'est-à-dire... ça vient de Chazon, Yehezé, El, vous avez compris que c'est Akadosh Baruch Hu, donc c'est Yeheske, El. Celui qui va avoir le chazon de Dieu. Celui qui va avoir la vision de Dieu.
Ça veut dire qu'il voit
Dieu. C'est au futur.
Qui verra Dieu.
Voilà. Le cours du Rav Zamir Cohen, un grand charisme, sont bien intéressants et compréhensibles. Safak Dosha, que l'on soit Baal Tshuva ou non, tout à fait, ils sont très intéressants, bien sûr. J'ai simplement dit que ce n'est pas la Shita et la façon dont j'ai enseigné, que j'ai appris la Torah et que je veux l'enseigner, mais bien sûr qu'ils sont tout à fait intéressants. Le Rav Zamir Cohen est un grand Talmid Chacham et qui sait très bien parler au public, qu'il soit religieux ou non, bien évidemment. D'ailleurs, on attend la suite de... Attends, je lis le dernier truc du chat. Quoi?
On est au micro, là. Ça suffit, le chat, là.
Bah, il y en a une. Il n'y en a plus qu'une. Attends, il y en a une.
Le courage d'ouvrir son micro.
D'ailleurs, on attend la suite de l'étude du livre de Shemot et le livre de Roth. Mais ça a recommencé, les amis. Ça a recommencé dimanche soir et mardi ce matin. Le seul problème, c'est que je ne les ai pas encore mis sur la chaîne. Bezrat Hashem, cette nuit, je vais les uploader sur la chaîne. Mais je vous rappelle que vous avez la possibilité de venir à la synagogue de Emouna avec votre vaccination à jour et vous pouvez venir écouter les cours en live et en chair et en os avec plaisir. Donc s'il y a des questions, mettez vos micros, c'est parti.
Shalom, je voudrais juste, je suis fils d'Impa. Je voudrais juste savoir quelle est la chaîne où on peut trouver vos cours ou participer à vos cours. Je suis en Europe.
Eh bien, la chaîne s'appelle Rav Ethan Fizon sur YouTube.
Voilà, question, chers amis. Brigitte, tu veux dire un mot?
Je me demandais si c'était vraiment un progrès qu'il y ait autant de yeshivas, yeshivot noirs en Israël, avec autant de gens qui ne font pas l'armée.
Alors, comment j'aurais pu deviner ta... Comment est-ce que j'aurais pu deviner ta question? Mais ta question, elle est basée sur un postulat de départ qui est erroné. C'est-à-dire que, qui t'a dit que dans le chiffre que j'ai donné, 1900 yeshivot, il s'agit que des yeshivot noirs?
Je sais.
Ah, donc déjà, il y en a plein qui sont pas noirs et il y a plein de bachur yeshiva qui font l'armée. Ça a l'air. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que tu poses une autre question. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire des yeshivot concentrés plus sur la qualité et pas sur la quantité? Je pense que je suis assez d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui veut étudier la Torah, tu ne peux pas l'en empêcher. Donc, oui, il faudrait se concentrer sur un enseignement de qualité. Et un enseignement de qualité ne veut pas forcément dire une grande, grande, grande connaissance de la Gemara, mais une connaissance de la Torah qui est adaptée au temps dans lequel nous la vivons.
Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être que la yeshiva telle qu'elle existe doit être remplacée par un autre, une autre forme, une autre structure d'études.
Je sens que tu as une idée à proposer.
Ben, disons que, par exemple, Manitou, après-guerre, il n'a pas créé une yeshiva. Il a fait quelque chose de différent.
Il a créé l'école d'Orsay.
Il était un grand pédagogue.
Mais tout à fait, mais tout à fait.
La pédagogie à la réalité historique. Alors, c'est pour ça que je pose la question.
Mais tu as tout à fait raison. La yeshiva ne forme pas les mêmes personnages que l'école d'Orsay. La yeshiva forme des gens qui ont des connaissances de Torah. L'école d'Orsay formait des dirigeants pour le peuple juif. C'est pas pareil. Il faudrait qu'après avoir passé 5, 6, 10 ans à la yeshiva, tu fasses le stage Shlav Bet à l'école d'Orsay.
Orsay, si tu veux. Orsay, ça a été tout de suite après-guerre. Après Manitou à...
Tu m'as dit après-guerre.
Oui, j'ai donné cette exemple.
Ah bah, moi je reprends. Non, mais évidemment, pas que l'école d'Orsay, Mayanot, évidemment, bien sûr, l'enseignement de Manitou, c'était... Mais je sais pas si toi, tu y as été personnellement, mais l'enseignement de Manitou dans ces écoles-là, c'était, évidemment, il enseignait la Torah, évidemment, mais l'objectif n'était pas de faire des rabbins. L'objectif était de faire des leaders du peuple juif et certains d'entre eux sont devenus des rabbins. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je te dis que le projet de la yeshiva, ce n'est pas le même projet. Donc, la yeshiva, c'est pour avoir engrangé des connaissances de la Torah et pour créer des nouveaux rabbanim. Mais il faut absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, créer une structure. Et c'est ce qui est en train de mettre en place le Rav Cherki dans son Bet HaMidrash Bet Shalom Yochai, où il a mis en place le Bet HaMidrash qui s'appelle Aruach HaGedola. On est en train de vouloir remettre en place cette dimension, de recréer des gens avec une vision, avec des connaissances de Torah évidemment, mais une grande vision aussi pour le peuple juif. Je suis d'accord avec toi qu'il faut faire ça, mais ce n'est pas à la place des yeshivot. C'est en parallèle des yeshivot.
Merci.
À mon avis.
Alors, c'était la journée de la femme hier, Ethan.
Total.
Et attends, alors c'est quand la journée de l'homme?
Non, hier, c'était la journée de la femme. Il y a quelqu'un qui pose comme question, à quand les yeshivot pour les femmes adultes?
À quand? Ça dépend de toi. Il y a déjà, ça existe déjà. Je te rappelle que, par exemple, ce matin, il y a eu, dans la synagogue du Rav Ben Ishaï à Emouna, il y avait le Kollel pour femmes, qui a repris en chair et en os ce matin, et puis en Zoom, ça existe déjà, des femmes adultes qui étudient la Torah. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je donne cours tous les jeudis matin à un groupe de dames exclusivement qui, depuis 40 ans, étudient la Torah ensemble. Ça existe déjà, des yeshivot pour femmes.
Todar,
à bah, de rien.
Merci beaucoup, Ethan.
Avec plaisir.
Merci, Johan.
À bientôt, les amis.